On reprend, et j'ai le plaisir d'inviter Madame Françoise Dubosson, historienne et professeure à la Haute École de Gestion de Genève, à prendre la présidence de la partie suivante. C'est elle qui invitera les prochaines conférences.
Merci beaucoup de me céder la parole. Alors, c'est un honneur assez redoutable d'avoir à présenter... Chaque fois que quelqu'un dit dans une conférence « il n'est pas besoin de présenter l'orateur suivant », je trouve que c'est très paresseux. Mais j'avoue que j'ai eu un petit peu cette tentation, parce que présenter Roger Durand n'est pas facile, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit ce matin, mais quand même, Roger Durand est un peu le père fondateur de toutes les sociétés savantes qui traitent des humanitaires à Genève. Évidemment Henri Dunant, dès qu'on a une question sur Henri Dunant, c'est évidemment à Roger que l'on la pose, mais c'est aussi quelqu'un qui a redécouvert, notamment en ce moment, Louis Appiah. C'est un bonheur de retravailler sur ses manuscrits. Roger Durand, c'est aussi la personne qui rend nos visites de Genève beaucoup plus intéressantes par toutes les plaques que l'on peut suivre et où on repère qui a vécu où. Et même quand on connaît bien Genève, on arrive toujours à en découvrir une au détour d'une rue qui nous apprend quelque chose que l'on ne connaissait pas. Et puis, à titre personnel, moi, Roger Durand, c'est quelqu'un qui m'a un peu tout appris du métier de l'édition, de l'imprimerie. C'est quelqu'un qui donne sa chance aux jeunes chercheurs, et ça, c'est vraiment pas si courant. Et que quelqu'un sache autant de choses et soit aussi généreux avec son savoir et ses connaissances, c'est à souligner et vraiment l'objet de toute notre reconnaissance. Donc, Roger, tu vas nous parler de Léopold de Favre, l'ex-héros du jour, détrôné mais juste temporairement par une autre héroïne. Et je te cède la parole.
Donc, le 23 mai 1917, Kevork V, pardonnez la prononciation, catholicos de tous les Arméniens, adressait une bulle pontificale depuis Ararat à Léopold Favre. J'en cite un premier passage qui commence par un des passages de la Bible. « Heureux ceux qui compatissent, parce que seuls ils trouveront la compassion. » Maintenant, la parole est au catholicos. Nous vous souhaitons, pour être un de ceux-là, à vous, le digne citoyen de la Suisse libre, car, suivant l'exemple du bon samaritain, et le cœur rempli de charité envers nos fils abattus sous les coups des impies, vous n'avez épargné ni vos peines, ni vos soins, pour verser d'année en année du baume sur leurs blessures et soulager leurs douleurs qui ont accablé la terre d'Arménie depuis tant d'années et surtout au cours de cette guerre qui a bouleversé le monde et qui, pareil à un torrent précipité des monts Altiers, a anéanti mon peuple ainsi que les fruits de sa vie spirituelle. Qui donc est ce Léopold de Favre qui reçoit là l'hommage du chef spirituel des Arméniens? Nous apprenons que le 23 décembre 1846, il vient au monde à la Villa de la Grange, c'est-à-dire cette magnifique domaine aux eaux vives, et que donc il naît d'une famille patricienne. Son père Alphonse est géologue, son frère Ernest est aussi géologue, mais aussi engagé dans les milieux évangéliques. Son autre frère Édouard, lui, est historien. Mais il est en même temps président de la Société des Missions. Donc, nous trouvons là un milieu qu'on pourrait qualifier d'aristocratique, et en même temps scientifique, et en même temps engagé dans la cité. En 1873, il épouse Louise Micheli, elle-même fille du pasteur Jean-Louis Micheli, tout à fait célèbre pour son engagement social. Hélas, 2 ans plus tard, il perd son épouse à la naissance de leur premier fils. Il ne se remariera pas et restera toute sa vie attaché à l'image de cette chair disparue. Signalons aussi que Léopold Favre est le cousin germain d'Alice Favre, qui sera pendant 25 ans la présidente de la Croix-Rouge genevoise. Donc nous avons un milieu qui est fort engagé dans l'humanitaire, puisqu'encore un de ses oncles, Camille, le colonel, est membre du Comité international de la Croix-Rouge. Léopold commence une carrière tout à fait standard d'un jeune aristocrate. Il fait son collège à Genève, puis une licence en lettres, mais à Paris. Il entre à la haute école des études, à l'école des hautes études, qui vient de se créer à Paris, et il entre dans un cénacle étroit de spécialistes des langues indo-européennes, notamment du sanskrit. Et c'est ainsi qu'il appartient à l'équipe qui veut traduire le Mahabharata pour la première fois, et ce qui l'amène à acquérir un grand nombre d'ouvrages scientifiques sur le sanskrit et les langues européennes, indo-européennes. Il fait partie de la première équipe qui s'intéresse à ce phénomène. Ce qui nous étonne, c'est que quelques années après, il abandonne parce que, dit-il, il ne se sent pas les compétences intellectuelles. Nous le regrettons vivement parce qu'il avait fait des études complémentaires en Angleterre et en Allemagne sur ce sujet, mais heureusement, sa grande bibliothèque, il la lègue à la communauté genevoise, et c'est pour ça que nous avons, notamment à la Villa de la Grange, une bibliothèque très riche en ce domaine. Nous apprenons qu'il mène une carrière militaire, il devient le lieutenant-colonel dans l'infanterie, et notamment, alors comme jeune officier, il est attaché à la couverture des frontières en 1870-71, lorsque, vous le savez, nous recevons en Suisse 80 000 hommes de l'armée bourbaki française qui se réfugiaient au lieu d'être capturés par les Allemands. Et vous savez que cette arrivée de ces malheureux a été le déclenchement d'un des premiers mouvements au niveau de la Suisse pour une démarche humanitaire dans l'esprit de la Croix-Rouge. Donc nous voyons que l'horizon de Léopold Favre s'annonce déjà dans la démarche humanitaire. Parallèlement, il mène des études de piano, il est agrégé du conservatoire et sera vice-président du conservatoire de musique entre 1901 et 1920. Et dernière chose, pendant la guerre de 14-18, il travaillera à l'agence des prisonniers de guerre comme à peu près toute la bonne société genevoise. Nous avons donc là une carrière, on pourrait dire, standard d'un jeune homme ou d'un homme de bonne famille qui est doué, qui est travailleur, qui veut réussir et qui brille dans de très nombreux domaines. Un autre détail qui va frapper ses contemporains, c'est qu'il habite au 6 rue des Granges, c'est-à-dire un des beaux hôtels particuliers de Genève, qui est rempli de documents et de souvenirs, ou historiques, ou artistiques, puisqu'il est aussi apparenté au célèbre philhellène Jean-Gabriel Hénard. C'est en 1896 qu'il connaît, j'avais envie de dire, son chemin de Damas, mais là, l'expression n'est pas bonne, parce qu'il n'était pas connu pour persécuter les Arméniens avant de s'en occuper. Mais c'est véritablement au moment où, en Suisse, nous apprenons le drame des premiers massacres massifs qui sont commis en Turquie, que Léopold Favre est approché par la propre épouse, veuve de l'historien de la Réforme, Henri Merle d'Aubigné, qui lui dit « Léopold, c'est votre voix, c'est votre devoir ». Et c'est un témoignage qui a été recueilli par des intimes et qui a été livré plus tard. Mais pour nous, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a là une mission. Je crois que quand on apprend que depuis ce moment-là, Léopold Favre a aussi un engagement spirituel, chrétien, protestant, évangélique, extrêmement intense, on peut imaginer que s'il se lance dans cette mission, c'est par conviction religieuse, et ce n'est pas pour une autre des raisons de la philanthropie qui ont été énumérées ce matin. Les choses vont très vite, puisque en 96, Georges Godet de Neuchâtel, qui était un des leaders à ce moment-là du mouvement en faveur de secours aux Arméniens, vient à Genève. En même temps, il y a l'exposition universelle, et il va renforcer l'appel de Madame Merle d'Aubigné, et c'est Godet qui va vraiment lancer Léopold dans le dossier des souffrances des Arméniens. Déjà en février 97, nous retrouvons Léopold Favre à Constantinople, où il va établir des contacts directement sur place. Il doit gérer des fonds et surtout, il fait ses premières visites d'orphelinat. Et nous allons le retrouver en 1903 pour son premier grand voyage en Arménie, cette partie qui a été décrite tout à l'heure par notre collègue. Et il va donc mener entre 1903 et 1909 six voyages en Arménie, 4 dans la région de Sivas, et puis le dernier dans la région d'Adana. Il est peut-être fastidieux de décrire tous les lieux qu'il a visités, toutes les personnes qu'il a rencontrées. Essayons de résumer l'essentiel. Son but est multiple. Tout d'abord, c'est un but d'information. Et pour moi, c'est assez intéressant de voir cette démarche scientifique. Il veut voir sur le terrain ce dont on parle dans la presse. La presse, donc, je vous le rappelle, dont plusieurs spécimens sont sur les deux murs qui vous entourent. Et dans cette information, il est amené à rencontrer des personnalités tout à fait différentes et variées, notamment des consuls, parce que vous l'avez remarqué, la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne aussi, ont des consuls répartis dans l'ensemble de l'Empire ottoman, et ces consuls, ces diplomates sont protégés et donnent des informations extrêmement précieuses sur les événements qui malheureusement se déroulent alors. D'autre part, il fait un effort immense pour visiter les nombreux orphelinats qui ont été constitués depuis plusieurs années, notamment par des missions chrétiennes, qu'elles soient américaines, suisses ou allemandes. Curieusement, dans ces notes de voyage, je n'ai pas trouvé beaucoup de contacts avec les Allemands. Vous savez que l'Allemagne, à ce moment-là, était alliée à l'Empire ottoman. Vous savez qu'en 14-18, l'Empire ottoman sera avec l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand un axe de la guerre. Donc, il est possible que là, il y ait eu quelques préventions. J'ai pas réussi à les établir. Mais en tout cas, c'est certain qu'avec les Américains, les Britanniques et les Suisses, il établit là un réseau de correspondance et de relations qu'il va utiliser ensuite pour tous ses combats en faveur des Arméniens. Mais ce qu'il y a pour nous de plus touchant, c'est qu'il s'efforce de visiter les très nombreuses orphelinats qui ont surgi dans un grand nombre de localités où les persécutions ont été extrêmement violentes. Et c'est d'ailleurs une des questions que je me pose, où on a eu un élément de réponse ce matin. Comment se fait-il qu'on ait tant d'orphelins, donc de tout jeunes enfants, qui soient protégés, qui n'aient pas été massacrés? Or, ils sont particulièrement vulnérables. Et là, il y a dû y avoir dans la stratégie du génocide turc un élément de conservation des enfants. Nous pourrions en parler tout à l'heure, et je ferai volontiers un parallèle avec les persécutions que les protestants français ont subies depuis la révocation de l'édit de Nantes et la prise en charge par l'Église catholique romaine des enfants huguenots dont les parents avaient été envoyés ou aux galères ou dans des prisons pour femmes. Toujours est-il que les témoignages nous émeuvent par leur nombre et par leur intensité d'enfants devenus des adolescents ou des jeunes adultes qui ont échappé aux massacres finaux, notamment de 1915, et qui témoignent ou bien directement à Léopold Favre ou à d'autres personnes après le décès de celui-ci du rayonnement, de l'attachement, de la simplicité, mais de la force que Léopold Favre n'épargnait pas dans chacun de ses contacts avec un grand nombre d'enfants. Et plusieurs nous disent à quel point ils étaient émus de voir que d'un voyage à l'autre, il les connaissait, il les appelait par leur nom, il avait certes une mémoire magnifique, mais en même temps, il avait cette force de donner à l'interlocuteur qui est en position de faiblesse l'impression qu'il est un égal et l'impression que il va pouvoir s'en sortir. On a là un art de la communication, une chaleur humaine dont tous les témoignages concordent quand on parle de Léopold Favre. Je pense que c'est aussi un des éléments à mettre en évidence, puisque je vous ai parlé tout d'abord d'un grand bourgeois, d'un aristocrate, de quelqu'un qui était né avec une cuillère en or dans la bouche, mais c'est aussi un homme qui a du cœur et qui a de l'engagement concret. Dans ses voyages, naturellement, il va aussi de mission en mission ou de lieu de culte en lieu de culte, principalement des lieux protestants. Et dans sa correspondance, c'est intéressant de voir qu'il a une perception dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent du conflit des religions entre chrétiens. Et ça, c'est un point qui est assez marquant et troublant, puis en même temps qui ne nous étonne pas, c'est que il y a non seulement une rivalité entre les missionnaires protestants et catholiques sur place, comme si on n'avait pas déjà assez de soucis avec les musulmans, et que, en plus, on a une rivalité avec ce qu'on appelle les grégoriens. Vous me corrigez si je me trompe, mais c'était les Arméniens qui avaient conservé leur religion historique. Et là, Léopold Favre, qui a un esprit missionnaire, il faut bien le dire, il veut amener des âmes à Jésus-Christ par la voie protestante. C'est absolument évident, et ça, il ne faut pas le nier. Mais il a cette perception que la démarche que tous ces Occidentaux qui ont véritablement une intention d'aider en premier des êtres persécutés sont en même temps en train de créer un climat de conflit, notamment avec les Arméniens de souche. Et c'est pour ça que la bulle pontificale qu'il reçoit donc en 1917 peut nous confirmer qu'il avait lui, fait le pas et compris que la première chose à faire, c'était de sauver des êtres humains et non pas d'amener des âmes à Jésus-Christ par la voie de sa propre religion. Ça, c'est peut-être intéressant comme élément de tolérance. Le voyage de 1909, donc son dernier voyage, est particulièrement bouleversant. Parce qu'il arrive, il va dans la région d'Adana, n'est-ce pas? Et il s'apprête à refaire un voyage standard, monter ou bien vers Sivas, ou bien d'aller en direction du Tigre et de l'Euphrate, quand tout à coup apparaissent des nouvelles contradictoires, que des événements graves se préparent. Alors, il quitte la Turquie et il va y revenir un peu plus tard dans l'année, lorsque le pire aura été accompli, c'est-à-dire des ravages de destruction de populations arméniennes dans la région d'Adana, dont on a parlé ce matin, et qui sont particulièrement violentes. Ce voyage est différent des autres, dans la mesure où, d'après ce que j'ai compris, Léopold Favre est plongé directement, concrètement, dans l'horreur matérielle de la persécution. Là, il voit des villages ravagés, il voit des fermes incendiées, il voit des cadavres dans les rues, il voit notamment des femmes et de tout jeunes enfants qui se terrent dans des abris épouvantables, dans des conditions d'hygiène pathétiques et de dénuement total et de désespoir. Et je pense que là, il y a un choc qui probablement peut être qualifié de traumatique. Et pour moi, c'est un tout petit peu l'analogie avec Henri Dunant, le 24 juin 1859, dans la Chiesa Maggiore à Solferino, tout près de Solferino, où Dunant découvre un certain nombre de soldats blessés, laissés sans soins, dans l'agonie et dans l'horreur des blessures et le désespoir de l'absence de soins. Je pense que pour Léopold Favre, cette épreuve du concret de la persécution a été un tournant. Il ne retournera pas en Turquie. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, nous apprenons que sa santé décline, qu'il ne peut plus faire tout ce qu'il voulait, parce que j'ai oublié de vous dire que les voyages, tous ses précédents voyages, il parcourt des dizaines de kilomètres à cheval dans des zones complètement reculées de l'Empire ottoman, où il n'y a aucune logistique d'hospitalité, les routes sont vraiment ou précaires ou inexistantes. Bref, ce sont des voyages d'aventure en même temps que d'engagement missionnaire, d'engagement humanitaire. Donc, nous allons faire un saut entre cette année 1909, et je vous ai parlé de son activité pendant la guerre de 14-18 en faveur de l'Agence des prisonniers de guerre, mais en même temps, depuis ce moment-là, on a l'impression que son engagement bascule et que depuis ce moment-là, il va surtout concentrer ses forces sur une action à l'intérieur de comités ou de sociétés qui se succèdent les unes les autres, en tout cas depuis 1918, où il est président du comité central de la Fédération des comités suisses amis des Arméniens. Et c'est dans la logique de l'après-guerre qu'il va s'engager avec naturellement d'autres philanthropes de Suisse, mais aussi d'Angleterre, mais aussi des États-Unis et de France, pour que la question arménienne soit associée à la question de la paix qu'on est en train de bâtir en 1919, notamment à Paris, au Congrès de la paix. Et alors, là, nous avons une succession de démarches diplomatiques Malheureusement, je n'ai pas pu travailler ce sujet. De toute façon, je n'aurai pas le temps. Mais c'est intéressant de voir qu'on a essayé d'intégrer le cadre de l'Arménie dans le bâtissement de la paix de 1919 et qu'on n'y est pas parvenu. Sa santé décline considérablement. Alors, il sera président d'honneur de la Ligue internationale philarménienne, donc qui sera la grande institution essayant d'amener les puissances à prendre des décisions de protection effectives des Arméniens, puisque nous l'avons vu au congrès de Berlin de 1878, les dispositions avaient déjà été prises, le sultan s'était déjà engagé, mais elles étaient restées lettres mortes. Alors peut-être que nous apprendrons par les présentations sur Édouard Naville ou sur Gustave Adolphe ce qu'il est advenu de ces démarches-là. Mais nous savons que Léopold Favre donne toute son énergie, toute son autorité pour obtenir que ces questions soient prises au sérieux. J'aimerais quand même ajouter un élément historique qui nous permet de mieux comprendre l'abandon par les grandes puissances victorieuses de la question arménienne à ce moment-là, donc les années 1920 jusqu'à 1923. Il faut se rappeler que nous sortons de la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre a, on pourrait dire, lessivé, vidé de leur force les empires centraux qui étaient l'Autriche-Hongrie et aussi la Russie, qui connaît à ce moment-là la fameuse révolution de 17, et ensuite la révolution soviétique. Du côté des vainqueurs, le bilan n'est pas beaucoup plus brillant. L'Italie est exsangue, la France est épuisée, la Grande-Bretagne épuisée aussi. Les États-Unis, eux, ont quand même, malgré des sacrifices en hommes magnifiques, ils retirent de cette guerre des avantages stratégiques et financiers énormes. Mais il faut se rappeler qu'en 1920, le président Wilson, qui était un président américain motivé par une politique de paix durable au niveau planétaire, d'un côté, Wilson est malade, il va mourir peu de temps après, et d'un autre côté, il est complètement désavoué par le Sénat américain, puisque les États-Unis refusent d'entrer dans la Société des Nations qui est en train de se bâtir. Donc, nous avons une configuration, on pourrait dire stratégique, extrêmement défavorable pour les Arméniens et pour les minorités de l'Empire turc. Parce que on vous l'a aussi montré, les jeunes Turcs qui tiennent le pouvoir à ce moment-là, ils viennent de vivre la défaite de l'Empire ottoman, qui a été vaincu par notamment les Britanniques, qui perd toute l'Arabie, la Jordanie, Israël, la Palestine, et notamment Jérusalem, qui est un des lieux saints de l'islam. Donc, on a une Turquie qui est dirigée par des hommes jeunes, nouveaux, qui ont une rancœur énorme pour la gestion déplorable de l'Empire ottoman de leurs prédécesseurs et qui veulent construire quelque chose de complètement nouveau sans aucun état d'âme. Et il faut se rappeler que quand ces années 19-20, tout le monde a le souvenir d'atrocités. Aujourd'hui, nous utilisons le mot d'atrocité. À l'époque, on parlait d'événements, parfois même de façon très positive. Je veux parler de l'élimination des populations indigènes en Namibie à la fin du 19e. Les Allemands, qui commence à se tailler un empire colonial, simplement élimine une population dont il ne reste plus aucun individu. Il faut se rappeler que les Britanniques, entre 1899-1900, dans la fameuse guerre des bourgs, créent les premiers camps de concentration, et où ils concentrent les populations civiles des bourgs, donc ces colons qui venaient des Pays-Bas et qui voulaient garder leurs terres que les Anglais voulaient conquérir parce qu'il y avait de l'or et des diamants. Et dans la guerre que l'armée britannique livre à ces populations qui étaient quasiment autochtones, qui étaient là en tout cas depuis 100-150 ans, c'est une guerre impitoyable. Dans ces camps de concentration, on a des taux de mortalité à 40%, 50%, sous administration britannique. Et ça va vous paraître racial, concernant des populations européennes et chrétiennes. Donc, la mort brutale ou le traitement impitoyable de populations civiles dans ces années 1918-1920, après toutes les horreurs de la Première Guerre mondiale, c'est complètement normal, c'est standard, c'est habituel. Et le fait que se déroulent en Arménie des événements tout aussi cruels, tout aussi répréhensibles, ça faisait partie du quotidien des diplomates, des décideurs, de ceux qui faisaient le monde. Et alors, c'est dans un contexte de ce genre que l'engagement de Léopold Favre nous paraît particulièrement extraordinaire parce qu'il s'y donne complètement. Ça devient la cause de sa vie. Il y consacre ses 25 dernières années. Il y dépense beaucoup d'argent. Selon ce qu'on a vu ce matin, on ne saura jamais combien, parce que par définition, il ne dit pas combien il donne. Mais tout le monde dit qu'il a donné et beaucoup donné, soit à des personnes privées, soit à des missions, soit à des orphelinats, soit à des instituts pour que de jeunes Arméniens puissent faire leurs études gratuitement. Il se donne dans son engagement de chrétien, puisque régulièrement il participe au culte, régulièrement il prend la parole dans les assemblées. Nous apprenons par exemple qu'il joue aussi de l'harmonium dans une paroisse genevoise, tenez-vous bien, qui était spécialisée de la Croix bleue. Vous savez que la Croix bleue, c'était la grande institution lancée pour la lutte contre l'alcoolisme. Et nous avons notre grand pianiste qui vient taper sur un harmonium tous les lundis pour meubler une croisade contre l'alcoolisme. Donc on a un homme qui s'engage pour des causes, qu'il fait à 100%, qu'il fait dans une conviction intime, probablement avec un esprit tolérant et écuménique, et qui va lutter jusqu'à la fin. Et nous savons qu'en 1922, au début de l'année, il décline sérieusement, tiendra le 4 avril sa dernière séance de comité, et il finira ces quelques derniers mois soigné par l'une des missionnaires avec lesquelles il avait fait plusieurs voyages en Turquie et qui se trouvait par hasard là à Genève. En résumé, sa trajectoire est certainement exemplaire et émouvante, puisqu'elle nous montre un homme qui se donnait entièrement à une cause, qui l'a fait sans compter et sans vouloir en retirer quelque bénéfice que ce soit, et qui a dû constater qu'en fait, il n'y avait pas de solution au problème qu'il traitait. Lui n'a pas vu la catastrophe du traité de Lausanne de 1923, mais il pressentait déjà que les puissances n'allaient pas trouver une solution durable. Alors vous me direz, bilan triste, bilan négatif, oui, d'un côté. Mais d'un autre côté, tous les orphelins qu'il a pu aider, parfois sauver, à qui il a donné des chances d'espérance, eh bien, eux ont constitué une nouvelle génération, une nouvelle espérance, et nous avons dans cette salle plusieurs descendants de ceux qui ont bénéficié de cet engagement. Certes, la moisson n'était pas abondante, mais elle était de qualité. Je vous remercie.
Encore un mot sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Donc, si tu veux, Sèvres d'une part, une intention de punir les pouvoirs qui ont perdu la guerre, l'Allemagne d'abord, mais aussi l'Empire ottoman. L'Empire ottoman a été démantelé, et Sèvres était un projet qui continuait les accords qui existaient déjà entre les grands pouvoirs au moment de Saxe-Picot. Mais tout ça, c'est moins important, Saxe-Picot, Sèvres, etc., que nous, les Arméniens, ou les Kurdes, ou les Arabes, ou d'autres peuples donnent à ces accords, parce que ce n'est pas les accords qui sont importants, c'est le résultat qui est important. Par exemple, au Moyen-Orient, on parle de Saxe-Picot comme si c'est Saxe-Picot qui a défini la carte du Moyen-Orient après la guerre. C'est pas vrai. C'est l'équilibre des forces dans les années 20 qui ont forgé le Moyen-Orient après la guerre. Et je pense qu'il faut revenir à l'équilibre des forces. Il faut essayer de comprendre et analyser au lieu de fétichiser enfin trop des accords diplomatiques. C'est finalement c'est des papiers. Si derrière les papiers t'as pas des moyens pour les imposer, ça reste des papiers.
Descendant de Léopold de Fabre. Est-ce que son fils lui a survécu et... Parce qu'on n'en parle jamais.
Non, il n'y a pas ce micro.
Alors.
On a un peu discuté Léopold de Fabre tout à l'heure et on s'interrogeait sur les éventuels descendants ou un éventuel descendant de Léopold de Fabre. Et en fait, on en est resté à un nourrisson qui perd sa mère à la naissance. Et est-ce qu'il y a eu.
Je dois avouer que la question m'est venue à l'esprit, mais que je ne l'ai pas traitée. Et c'est bien dommage, parce qu'effectivement, il doit y avoir des papiers Favre quelque part, mais j'avoue que je ne sais pas, mais ça fera probablement l'objet d'une nouvelle étape. Sauf si quelqu'un ici connaît des éléments de la... descendance Favre.
Ben voilà, parce que
non, malheureusement, je ne sais pas.
Bon, on n'en manque pas, c'est bien, on en a un plus. Merci beaucoup. Vous avez compris que dans cette première partie d'après-midi, nous traitons de quelques personnalités représentatives de la philanthropie genevoise. Donc après Léopold de Favre, nous allons traiter d'Édouard Laville et de sa femme, Marguerite. Et c'est grâce à Corinne et Laville que nous allons pouvoir traiter de cette personnalité, de ce couple, je crois qu'on peut le dire ainsi, qui est une arrière-petite-fille d'Édouard et Marguerite, et enfin de Marguerite surtout d'ailleurs, donc les deux, mais arrière-petite-fille du couple.
Et, oui.
Oui. Et je voulais juste vous rappeler que, avec deux autres représentants de la famille, Corinne a écrit à six mains donc, ce très joli ouvrage, La plume, le pinceau, la prière, que vous trouvez au fond de la salle. Donc, voilà. Et qui est vraiment une histoire tout à fait remarquable parce qu'elle est racontée de façon très vivante et elle redonne sa place à une femme. On a fait déjà la remarque ce matin que beaucoup de femmes étaient dans l'ombre dans cette histoire et ça lui redonne toute sa lumière.
Donc j'aimerais saluer ma cousine Laurence, la ville ici, qui est aussi s'est occupée beaucoup de la partie égyptienne, moi la partie de guerre. Et elle est ici, elle m'a énormément, il faut aussi que la remercie, aidée pour cette conférence. Non, et on m'entendra d'autant moins que j'ai un peu de voix. Alors,
voilà, alors mes remerciements à Laurence étant déjà faits, c'était prévu dans mon programme. Je voulais m'excuser parce que les microbes ont fondu sur moi depuis deux jours. Donc, j'ai pas vraiment une voix extraordinaire. mais enfin, je vais essayer. Et je voulais vous dire juste que j'ai lu avant, non plutôt après justement, après avoir fait cette conférence, j'ai lu deux livres un peu romancés sur l'Arménie et j'ai été tellement épouvantée que j'ai failli dire à Roger, écoute, je peux pas faire cette conférence. Mais enfin, elle était faite. Bon, heureusement. Mais vraiment, j'ai été complètement bouleversée par tout ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, qui était très loin de... Ça, j'avais évidemment vu des choses dans le livre que nous avons écrit, et dont je vais parler, mais pas à ce point-là. Voilà. Alors, toc. Donc, Édouard et Marguerite face à la question de l'Arménie. Comme petite introduction au couple Naville, sachez qu'Édouard est né en 1844, qu'il a vécu 14 périodes très longues en Égypte, soit de 1883 à 1914, les fouilles sont interrompues par la guerre, qu'il créa la chaire d'égyptologie à l'Université de Genève dès 1891, qu'il fut vice-président du CICR de 1898 à 1922, soit 24 ans, et président par intérim de 1917 à 1919. Il fut maire de Gentoux et fut à l'origine d'une prodigieuse production scientifique, la plupart du temps en anglais, se rapportant à l'antiquité égyptienne, à son anthropologie et à son ethnographie. Son œuvre la plus célèbre est la présentation, la réécriture du livre des morts illustré par sa femme. L'Institut de France l'a accueilli en son sein à titre d'associé en 1908. Et après la séparation de l'État et de l'Église, grand chrétien, il participa à l'organisation de l'Église protestante de Genève. Sa femme, née en 1852, comtesse Marguerite de Pourtalaise, fut une dessinatrice et épigraphiste talentueuse lors des campagnes de fouilles en Égypte et également une compagne indéfectible de tout son engagement philanthropique, humanitaire et social. Imprégnée d'un protestantisme rigoureux, Marguerite eut toute sa vie à cœur de soulager les souffrances d'autrui. Et ce qui est très important, ce sont ses carnets d'Égypte, puis de guerre, qu'elle a tenu au jour le jour de 1883 à 1919, ainsi que sa nombreuse correspondance qui nous ont permis de reconstituer leur vie familiale, genevoise, internationale, et de retrouver ainsi tous les éléments concernant notamment l'Arménie. Donc c'est d'après tous ces journaux tenus au jour le jour, que nous avons, avec Laurence, pu écrire ces deux grandes parties, la première étant sa jeunesse, par Daniel Maurice, mais les deux grandes parties, Égypte et la guerre, tous les jours. Pendant la Première Guerre mondiale, Édouard Naville est vice-président du CICR, puis dès 1919, il en devient le président par intérim, Gustave Adolphe, président en exercice, ayant été nommé au Conseil fédéral. À ce moment-là, le CICR est une association encore peu expérimentée, elle compte 10 membres, mais philanthropique et entièrement consacrée aux victimes de guerre. En 1870, le CICR avait créé une agence de renseignement sur les blessés et prisonniers et recueillait alors des informations pour répondre aux demandes des familles. Cette agence prendra le nom d'Agence internationale des prisonniers de guerre dès 1914, aujourd'hui Agence centrale de recherche ACR. C'est donc la Première Guerre mondiale et ses suites qui ont donné et confirmé à l'institution et pour tout jamais ses contours actuels. Dès la fin de l'été 14, 1200 personnes travaillent pour l'Agence des prisonniers de guerre et pendant toute la guerre, plus de 3000 collaborateurs s'y relaieront pour traiter 30 000 lettres par jour. C'est l'actuel musée Hirat qui qui ouvre ses portes pour recevoir cette nouvelle agence dont le but est de faire rapatrier les prisonniers capturés, ceci conformément aux deux conventions de Genève. Par exemple, il faut absolument rapatrier les médecins, les infirmiers, tous ces gens-là dont on a besoin sur scène. De rassurer les familles, d'annoncer les emprisonnements ou les décès et de recevoir des secours. À l'époque, évidemment, les fichiers méthodiques ne sont pas encore très opérationnels et la difficulté est grande quand on trouve 36 Müller François et 25 Philippe Dupont qui ont tous le même prénom. Quant au nom asiatique, c'est une autre histoire. Mais le Japon, lui, ne s'intéresse guère à ses prisonniers. Pour l'anecdote, Romain Rolland est un des premiers contributeurs volontaires de l'agence dans laquelle Édouard et Marguerite vont passer le plus clair de leur temps. En 1915, un grand élan de générosité souffle sur Genève, car à côté du grand chambardement mondial, les Turcs et même leurs alliés, les Allemands, les Autrichiens, persécutent et martyrisent les Arméniens. C'est le début du fameux génocide. Citons le journal de Genève du 10 juillet de cette année-là. Entre guillemets. D'abominables persécutions ont eu lieu contre les Arméniens en Cilicie. Plus de 40 000 d'entre eux sont déjà morts. Les Turcs ont déjà imaginé de faire partie toute la population chrétienne de régions entières et de l'envoyer à pied après l'avoir dépouillée de tous ses biens dans des déserts où elle meurt de faim. Les soldats turcs battent les retardataires à coups de trique et les obligent à marcher, quoi qu'il en soit. Il est intéressant de noter que le problème arménien a toujours fait vibrer le cœur des Suisses, puisque dès les premiers massacres d'Arméniens par les Ottomans, le peuple suisse et la presse se sont mobilisés. N'oublions pas surtout, ça c'est très impressionnant, que l'Arménie est le premier pays chrétien dès le IIIe siècle. Avec trois membres du CICR qui le co-signent, Édouard publie un vibrant appel aux belligérants pour qu'ils s'abstiennent d'exercer des représailles contre les prisonniers. En effet, les Russes aussi gagnent du terrain et les lettres reçues à l'agence décrivent une réalité horrible. Dans le journal de Genève du 17 août 1916, quelques professeurs de ce pays martyr publient un récit sur ce qu'ils côtoient tous les jours. Guillemets, en présence de scènes d'horreur qui se déroulent chaque jour sous nos yeux à côté de notre école, notre travail d'instituteur devient un défi à l'humanité. Comment pouvons-nous faire lire à nos élèves arméniens les contes des sept nains? Comment pouvons-nous leur apprendre à conjuguer et à décliner quand dans les cours voisines de notre école, la mort fauche leurs compatriotes? En 1918, les organisations philanthropiques suisses se fédèrent sous le nom de Fédération des comités suisses amis des Arméniens, dont le comité central siégea à Genève, présidé d'abord par Léopold Favre, puis par Édouard Naville. Merci Laurence pour tes recherches. Marguerite, qui relate tout cela dans son journal, en perd le sommeil. Elle et son mari réunissent alors des fonds pour l'Arménie, organisent des ventes, envoient le produit à des amis impliqués sur place. Marguerite traduit des lettres en anglais. Elle est trilingue. Qu'elle envoie directement aux États-Unis pour sensibiliser l'opinion et elle seconde son mari. Tout ceci, entre parenthèses, à côté de toute l'aide immense qu'ils apportent à tant de miséreux du reste du monde. Dans son rôle de président du CICR, Édouard est très actif sur tous les fronts. En effet, en 1918, par la voix d'Édouard, le CICR lance un appel vibrant contre les gaz asphyxiants, une nouveauté dont a d'ailleurs été atteint le neveu écrivain Guy de Pourtalès. Je cite, « Nous voudrions aujourd'hui élever la voix contre une innovation barbare que la science tend à perfectionner, c'est-à-dire à rendre toujours plus homicide est d'une cruauté plus raffinée. Il s'agit de l'emploi des gaz asphyxiants et vénéneux dont, paraît-il, l'usage va aller en augmentant dans des proportions qu'on ne soupçonnait pas jusqu'ici. Nous ne pouvons croire qu'en tout pays, les cœurs généreux ne soient pas révoltés par ces perspectives, et c'est pourquoi nous n'hésitons pas à demander hautement qu'on renonce à cette manière de faire la guerre. Pour cela, il faut un accord immédiat que les diverses armées s'engageraient à exécuter loyalement. Si la Croix-Rouge pouvait profiter et provoquer cet accord, s'il pouvait être conclu à l'ombre de son drapeau, ce serait là un premier retour aux principes qui ont dicté les conventions de Genève. Malheureusement, un an après l'armistice du 11 novembre 1918, les massacres continuent en Arménie. Et le 29 novembre 1919, dans un très long article, Edward en appelle au président des États-Unis, soit Woodrow Wilson, afin que son pays ne laisse pas tomber dans la ruine totale cette malheureuse Arménie qui attend de l'aide dans l'urgence et le désespoir. Je cite, « Il n'est pas nécessaire de décrire à nouveau le sort affreux des Arméniens. Pendant les 20 dernières années, des témoins oculaires ont dépeint le massacre systématique de plus d'un million de ces malheureux chrétiens. Le monde civilisé a été soulevé d'indignation et les Arméniens pouvaient légitimement espérer qu'avec la victoire des Alliés, ils verraient la fin de leur terrible épreuve. Combien est différente la situation d'aujourd'hui ? L'armée turque s'est reconstituée. La plus grande partie du pays qui avait été libérée est occupée à nouveau. Des milliers d'Arméniens sont encore des fugitifs. Si les puissants alliés ne prennent pas résolument en main leur cause, l'avenir qui attend les Arméniens, ce n'est pas un simple retour à la domination turque, c'est l'achèvement de l'œuvre de destruction. L'Arménie n'existera plus. Elle sera effacée du concert des nations chrétiennes. Voici une population qui, quoique écrasée par des oppresseurs de religions différentes, a réussi à conserver son esprit national, sa foi chrétienne et l'espérance qu'un jour ses chaînes tomberaient et que désormais la liberté serait son partage. Mais cette espérance sera-t-elle sans retour ? Le jour dans lequel d'autres peuples arboreront joyeusement le drapeau de la liberté sera-t-il au contraire le jour où l'Arménie sera mise dans son tombeau, dont la pierre sera scellée pour toujours ? Cet appel a comme but de toucher et le cœur du président américain et celui de sa population. On doit savoir là-bas que les Arméniens placent toute leur confiance en eux, qu'ils connaissent les sentiments de générosité et de justice qui animent ce peuple et que ce dernier se doit de sauver une nation mourante d'une destruction certaine et se doit aussi de maintenir son indépendance et sa liberté. Je parle donc d'il y a 100 ans. Et Marguerite, une fois encore, traduit des lettres et en tram, ou souvent à pied, car les chevaux avaient été réquisitionnés et pas toujours rendus, descend en ville, apporter aux réfugiés et à tous les miséreux réconfort, c'est-à-dire écoute, bienveillance, psaume, argent qu'elle a pu récolter lors de ses demandes multiples et diverses, toujours vaillante, mais parfois un peu découragée. Elle tenait d'ailleurs un autre journal qu'elle a appelé le journal de mes malheureux, et dans lequel elle transcrivait jour après jour le suivi de chacun d'eux. En juin 1920, un nouvel élan dans l'aide aux Arméniens se concrétise et aboutit à la Ligue internationale philarménienne. C'est une nouvelle reconnaissance de la souffrance arménienne et des traités non respectés, notamment celui de Sèvres. Pour cela, Édouard s'est rendu à Paris, à la conférence des Amis des Arméniens. La délégation genevoise, dont lui à sa tête, fut chargée de préparer un projet d'organisation. la Ligue fut définitivement constituée le 11 septembre 1920 et Édouard devient président du comité exécutif. Mais à peine quelques jours plus tard, les nationalistes turcs de Mustafa Kemal, vous avez reconnu que c'est Atatürk, ont repris les armes. Bouleversée, la Ligue philarménienne lance un cri d'alarme à la SDN. La situation est gravissime à cause du retard apporté à la désignation d'un État mandataire capable de maintenir la sécurité de la nation arménienne prévue par le Conseil suprême de la Société des Nations. Mais cet engagement n'a pas été respecté. La sécurité et les obligations financières doivent être à la charge de la SDN et en partie des États-Unis qui avaient accueilli favorablement toute demande d'aide, hormis l'engagement sur son territoire. La SDN doit en outre veiller à la liberté civile et religieuse du pays. En résumé, la Ligue demande A. L'exécution des propositions émises en 1920, soit la création d'un État mandataire. B. Une aide militaire suffisante pour expulser l'envahisseur turc des territoires arméniens. Et 3. L'établissement d'un gouvernement stable dans les territoires conformément au traité de Sèvres et de Versailles, soit l'établissement d'un nouvel État arménien. Pour bien comprendre à quoi est faite l'allusion au traité de Sèvres, en voici un petit résumé. Le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920, impose le démantèlement de l'Empire ottoman. La Turquie reconnaît l'Arménie comme un État libre et indépendant, dont les frontières seront tracées par le président Wilson. On prévoit aussi une zone kurde autonome. Mais les nationalistes turcs de Mustafa Kemal ont refusé de respecter ce traité et ont repris les armes. On signe, mais on ne respecte pas. Début 1921, la situation a encore empiré, puisque cette fois-ci, la Russie soviétique et la Turquie ont envahi le territoire de l'Arménie historique, dont Erevan. Territoire qu'elle se partage dans un nouveau traité, celui de Moscou de 1921. Et les Arméniens doivent accepter une paix désastreuse et une partie du pays est intégrée à l'Union soviétique, dont Erevan, la capitale. Alors Édouard Naville reprend son bâton de pèlerin, au figuré bien sûr, et redemande par l'intermédiaire de la Ligue que Mustafa Kemal évacue le territoire assigné par le président Wilson. Une nouvelle conférence commence pour la paix au Proche-Orient. Elle sera convoquée à Lausanne en 1922, qui aboutira au traité de Lausanne en 1923. Et ce traité remplace le traité de Sèvres devenu caduc. Malheureusement, l'Arménie est complètement sacrifiée, et les Kurdes aussi. D'ailleurs, les deux figurent dans les actes de la Confédération comme questions non résolues. Il n'y a pas de sanctions, mais le sort de l'Arménie a fait l'objet de discussions animées à Genève lors des premiers, dans les premières assemblées de la SDN. Le conseiller fédéral Giuseppe Motta présenta une motion à la SDN afin qu'on ne perde pas de vue la nécessité de constituer un foyer national pour les Arméniens. J'ouvre les guillemets. Ne pas résoudre ce problème serait une souillure, une honte pour la civilisation humaine. Les Naviles n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais ils apprendront, léger petit réconfort, que les scouts arméniens chantent, prient, parlent dans leur langue et dans leur religion. Continuons ainsi de préserver leur héritage culturel. Pour Marguerite, ces traités à peine signés et tout de suite bafoués sont comme une énorme désillusion. Écoutons-la nous murmurer, puisqu'elle ne se plaint jamais. Cette fois-ci, l'espoir m'a quitté. Le monde avait espéré une paix définitive, mais elle s'éloigne de jour en jour. et je pose ma plume après l'avoir fait courir 1900 fois sur les cahiers de mon journal. Je me demande si quelqu'un pourra comprendre ce que fut ma vie et celle d'Edouard durant ces années noires. Que quelqu'un pourra vibrer, même en sourdine, devant nos peurs récurrentes, nos espoirs déçus, nos violentes indignations. Quelqu'un pourra-t-il reprendre foi dans la nature malmenée de l'homme, maintenant assoiffé de sérénité? Je l'ignore, mais je demande que Dieu m'assiste dans mon besoin d'espérance. Merci. Technique, hein, s'il vous plaît. Là, vous avez des conférences avant la mienne pour les questions techniques.
C'est une question autour de la figure justement de Marguerite Nagy. On connaît bien Edouard Nagy, mais vraiment, c'est une femme qui peint, qui a beaucoup de talent, et elle est. Ses talents ne sont pas forcément mis en avant. Est-ce qu'on a, elle ne se plaint jamais, vous l'avez dit, est-ce qu'on a au travers de ses carnets quelque chose de plus personnel?
Ah oui, eh ben. Vous allez tout de suite acheter 3 ou 4 livres, et donc vous en saurez beaucoup, beaucoup. Oui, il en a déjà acheté un. Mais Marguerite est une femme vraiment extraordinaire que nous avons découverte, ma cousine et moi, au travers de ses lettres et autres, parce que chez nous, on parlait beaucoup d'Edouard, évidemment, le grand égyptologue. Enfin, il avait fait tellement de choses dans sa vie, c'était extraordinaire. Et Marguerite, on a commencé par trouver tout de suite une photo, parce qu'elle prenait aussi des photos, avec, il y avait les pyramides et tout, puis un petit triangle, et c'était mon ombre. Ça commence comme ça, mon ombre. Donc elle, jamais mise en avant. Mais c'est une femme complètement autodidacte, qui a appris à peindre et à dessiner avec son frère, mais enfin n'a fait aucune université pour ça, qui a appris les langues comme ça, et qui était vraiment une femme exceptionnelle, n'est-ce pas, Laurence? Vraiment, une femme extraordinaire, et qui s'est donnée, mais quand je ne sais pas au monde, comment elle arrivait à vivre et à dormir. Parce que elle faisait tellement de choses, et elle a tellement suivi son mari en tout. Donc c'est elle qui faisait tous les dessins. Elle montait sur son échelle, elle allait faire les estampages en haut des pyramides, ensuite elle redescendait, elle coloriait tout, et vous verrez dans le livre, c'est absolument incroyable ce qu'elle a fait comme dessin. Et puis elle traduisait beaucoup ses lettres, elle recevait beaucoup tous ces gens qui venaient de la Croix-Rouge, elle a reçu des popes, des tas de gens extraordinaires ou autres, qui n'étaient pas du tout une mondaine, mais enfin elle a été obligée de le faire. Elle s'occupait énormément de ses petits-enfants, dont Denis von Berchem, qu'elle a beaucoup, auquel elle a mis le pied à l'étrier pour toutes ses connaissances scientifiques. Mais, non, vraiment une femme extraordinaire. Se plaignant jamais, à un moment donné, elle s'est cassée le poignet à Anne, elle a attendu 3 semaines pour rentrer. Vraiment une femme extraordinaire. Et qui écrivait, à Noël, qui écrivait des petites pièces en verre, en alexandrin. Et elle faisait jouer ces petits musulmans qui prenaient la place de Marie et de Jésus, etc. Il y avait toute une crèche avec tous ces petits Égyptiens et puis ces petits enfants de la ville, mais enfin, il y en avait 4, et tous les autres qui étaient là. Et puis, extraordinaire. Alors, deux fois de suite, elle a pris ses 4 enfants qui étaient petits, le dernier Lucien, fondateur des librairies de la ville, et Frédéric, notre grand-père, elle les prenait les 4, et elle faisait l'école, en plus de tout ce qu'elle faisait. Elle faisait l'école. Et, non, vraiment une femme assez extraordinaire que nous avons découverte. Voilà. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions plus personnelles.
Oui. Qui est resté sans suite.
Le café de Sèvres, c'est une rencontre de délégués des puissances victorieuses face à l'empire ottoman turc vaincu. Et on négocie, et on décide dans les éléments dont on vient à la fin, que les Arméniens auront la libre jouissance des provinces qu'ils occupent, et que cette disposition sera garantie par les États-Unis. C'est un document de négociation signé à Sèvres en 1920, mais qui ne prend toute sa pertinence et sa portée une fois entériné par les parlements des pays signataires. Et c'est cette étape qui n'a pas eu lieu. Donc en fait, autour de la table, il y a eu le consensus, mais le temps que ça se discute dans les parlements réciproques allemands, américains, français, anglais, le temps a passé, la situation a changé, et les intérêts des grandes puissances se sont orientés sur d'autres questions que leur présence dans les restes de l'Empire ottoman. Donc, il n'a jamais été entériné par les pays qui auraient dû le faire entrer. C'est pour ça qu'en 23, le sujet, c'était presque une page blanche, et pour les Turcs, ils ont pu profiter d'une évolution de la situation et retirer la couverture en leur faveur. Une anecdote, enfin, lorsque le président de la Confédération, M. Kouchka, a rendu une visite officielle à Ankara, dans ses bagages, il a rendu la table sur laquelle il avait signé à Ouchi le traité de 1923 qui a effectivement clos la question arménienne. Cadeau de la Suisse à la Suisse.
Merci beaucoup pour cette présentation. Merci.
Il faut juste mettre là. Dans l'autre sens, oui, ouais. Tout à fait.
Voilà.
Voilà.
Et puis alors, si on
appuie, il faut juste appuyer lequel fichier vous. Fichier, il faut double-cliquer, c'est tout.
Avec
grâce à validation, il faut juste.
C'est pas, il y a un problème.
Ah oui, il faut aller dans le diaporama.
Allez, celui-là. Non, mais c'est celui-là.
L'autre, pardon. Il faut aller dans le diaporama. Et puis, de deux, on peut faire défiler.
Ça marche pas. Ah, mais il n'y a pas là. Sur le discours politique et humanitaire de Gustave Adolf. C'est en effet de Gustave Adolf dont il va être assez long. On connaît beaucoup les activités de Gustave Adolf, mais alors, vraiment, les activités en faveur de la cause arménienne, vraiment, c'était terra incognita. Donc, on se réjouit de le discuter sur ce sujet.
Non, je ne le prends pas. Ah. Je parlerai fort.
Tu
crois. 100% sûr.
Ok.
Alors, mesdames et messieurs, je remercie les organisateurs de m'avoir invité, en particulier Roger Durand, pour que je puisse vous présenter le rôle de Gustave Adolf en faveur des Arméniens dans le cadre de la Société des Nations. Et je vais toutefois un petit peu déborder de ce cadre, puisque Gustave Adolf se plaît. Se plaît à associer politique et humanitaire. Ça va mieux comme ça ? Très bien. Alors, le 8 septembre 1924, Gustave Adolf monte à la tribune de la 5e Assemblée de la Société des Nations pour prononcer un discours éclectique faisant suite au rapport sur l'œuvre du Conseil et du travail du secrétariat. Il ne le sait pas encore, mais c'est son dernier grand discours à la SDN, puisqu'il quitte malade quelques jours plus tard les séances et qu'il demande par la suite de ne plus y représenter la Suisse pour des raisons de santé. Il avait d'ailleurs déjà songé durant l'été à renoncer à ses fonctions. Dans ce discours, après avoir rendu hommage au travail accompli dans le cadre de la SDN, après avoir appelé à l'urgence de bâtir en palais des nations, prononcé un véritable plaidoyer en faveur de l'arbitrage international, c'est-à-dire de la paix par le droit, qui est au cœur des discussions de cette Assemblée, il aborde en dernier sujet. Enfin, pour ne pas reprendre plusieurs fois la parole, permettez-moi d'ajouter encore un mot sur une question que nous avons toujours tenue à cœur et dont l'Assemblée s'est déjà souvent occupée sans lui avoir trouvé une solution satisfaisante. Je veux parler du peuple arménien. S'il est une situation à laquelle la Société des Nations a le devoir de vouer toute sa sollicitude, c'est bien celle de ces malheureux Arméniens qui, fidèles à leur religion, à leur patriotisme, sont sans cesse persécutés, chassés de leur pays et condamnés à errer un peu partout, sans avoir une patrie qu'ils puissent considérer comme telle et habiter en toute tranquillité. Nous verrons la suite du discours plus tard, mais arrêtons-nous un instant sur ce début. Nous avons ici trois éléments qui sont au cœur de la réflexion et de l'action de Gustav Ador à propos de la question arménienne. Tout d'abord, la notion de devoir et de responsabilité, ici de la Société des Nations, mais plus largement des grandes puissances occidentales, des États sociétaires, donc aussi de la Suisse neutre, et de la société occidentale en général, qui, pour Gustav Ador, doit être régie par les préceptes de la morale chrétienne et doit donc défendre les minorités chrétiennes en péril. Ce devoir pour les malheureux Arméniens appelle ainsi la sollicitude des Occidentaux. Ensuite, l'aspect politique, avec la notion de patriotisme et de patrie, et qui permet d'aborder la question de l'État arménien et de son étendue. Et enfin, l'aspect humanitaire, avec celle des réfugiés arméniens, qui s'imbrique dans le champ beaucoup plus large du retour des prisonniers de guerre et de ce que l'on a appelé les réfugiés de la paix, c'est-à-dire des réfugiés provenant de la redéfinition des frontières de la carte de l'Europe et du Proche-Orient autour de la notion d'État-nation, ainsi que des réfugiés fuyant les nouveaux conflits, la famine et les épidémies, et dans notre cas, s'imbriquant dans la situation complexe de l'ensemble des réfugiés provenant de la Russie, de la Transcaucasie et du Proche-Orient. Le parcours foisonnant de Gustav Ador nous permet d'aborder ces trois éléments sous différents angles. Sans entrer dans les détails, je mentionne simplement, pour ceux qui ne connaissent pas Gustav Ador, qu'il a autant mené une carrière d'avocat et d'homme d'affaires, ayant des intérêts financiers au niveau européen, une carrière politique au niveau communal à Coligny, cantonal à Genève, où il a été député du Grand Conseil, puis conseiller d'État, et au niveau fédéral. Cette carrière culmine lors de son année de présidence à la Confédération en 1919, après avoir été conseiller des États, longtemps conseiller national et conseiller fédéral en charge des affaires étrangères et de l'intérieur, puis de l'intérieur. Également une carrière que l'on peut qualifier de diplomatique lorsqu'il est le commissaire général de l'Exposition nationale de Paris en 1900, qu'il mène des missions diplomatiques après son retrait du Conseil fédéral à Paris et à Londres, et surtout qu'il est délégué de la Suisse à la Société des Nations, président de son organisation économique et financière, puis président de son comité financier jusqu'à sa mort. Et enfin, une carrière humanitaire, puisqu'il a été membre du CICR depuis presque sa fondation et qu'il l'a présidé de facto puis de jure depuis le tournant du XXe siècle jusqu'à sa mort, qu'il s'est impliqué dans d'autres organisations qui collaborent avec le CICR, comme l'Union internationale de secours aux enfants autour du réseau de Save the Children d'Eglantyne Gemple. Nous allons donc ensemble nous interroger sur l'implication de Gustav Ador dans la question arménienne, que ce soit au niveau politique ou humanitaire, et sur ses enjeux dans le cadre de la mise en place d'une diplomatie humanitaire empirique qui s'institutionnalise. Les premières prises de position du Comité international de la Croix-Rouge sous la présidence de Gustave Ador en faveur des Arméniens sont faites sous l'angle de la sollicitude et du devoir de ne pas rester silencieux devant les massacres. Ainsi, lors des massacres d'Adana en 1909, la Croix-Rouge internationale ne saurait rester indifférente ou inactive quand une calamité générale plonge dans la détresse une partie de l'humanité. Tandis que lors du génocide de 1915, le CICR s'adresse directement au Croissant-Rouge ottoman pour adresser une vigoureuse protestation afin de dénoncer une destruction systématique et intentionnelle de la nation arménienne. Dans les deux cas, apparaît l'idée que des instances humanitaires ne peuvent rester indifférentes, assister sans mot dire et se désintéresser. Elles ont donc un devoir et une responsabilité envers un peuple en danger d'extermination. Mais le CICR ne mène guère plus d'action que ses protestations à ce moment-là et se range devant le bon vouloir du Croissant-Rouge qui transmet simplement les protestations à son gouvernement sans rien faire. De même aussi l'année suivante, lorsque le Comité suisse de secours aux Arméniens lui demande d'envoyer une délégation en faveur des enfants arméniens enlevés par les Turcs. Même démarche. De surcroît, il faut limiter la portée de la protestation de 1915 du CICR, puisqu'elle n'est pas publiée dans la presse ni mentionnée dans le bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge, alors que les journaux suisses dénoncent jour après jour la destruction systématique des Arméniens et relatent les nombreuses conférences et levées de fonds en leur faveur. Elle est simplement mentionnée dans une conférence que donne Gustave Ador à Paris en février 1916, qui est certes publié dans un journal français protestant qui s'intitule « Foi et vie ». La mention de cette protestation est aussi reprise dans une publication en 1917 sur l'œuvre de la Croix-Rouge durant la guerre. Il est difficile de déterminer la part exacte par Gustave Ador dans ses démarches. En effet, la protestation de 1915 est adressée au Croissant-Rouge lorsqu'il est en voyage à Vienne et à Budapest. Mais ce qui est sûr, est que le Comité international est un milieu pro-arménophile, comme nous l'avons vu précédemment avec Madame Aigli, puisque Édouard Naville devient vice-président en octobre 1915. Quant à Léopold Favre, évoqué par Roger, bien qu'il ait refusé d'entrer au comité, il travaille bénévolement au sein de l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Gustave Ador, sans prendre part au comité arménophile, s'est déjà entremis pour la cause arménienne, notamment en 1914, où il entreprend avec Léopold Favre des démarches afin de trouver un candidat suisse au poste d'inspecteur général européen pour l'une des deux provinces arméniennes dont la création est prévue par l'accord de Yenikoï. Par ailleurs, Gustave Ador a une connaissance personnelle de l'Empire ottoman, puisqu'il a séjourné à Constantinople au printemps 1903, lorsqu'il était un des arbitres chargés de trancher en différend entre le gouvernement de l'Empire ottoman et l'administration de la dette ottomane. Sa correspondance relève le caractère multi-ethnique de la ville. Revenons aux protestations du CICR en faveur des Arméniens. En fin de compte, la position du Comité international, extrêmement prudente, rejoint celle du Conseil fédéral, dont fait partie Gustave Ador dès juin 1917. En effet, lorsque plusieurs comités arménophiles ainsi que la délégation nationale arménienne demandent en 1918 au Conseil fédéral d'agir en faveur des victimes arméniennes, celui-ci forme des vœux pour les Arméniens afin qu'ils puissent à l'avenir se développer librement. Mais le Conseil fédéral n'agit pas. Gustave Ador précise même à l'un de ses correspondants que la Suisse aimerait agir, mais qu'une intervention serait, je cite, « mal prise et n'aurait malheureusement aucun effet ». Cette lettre du Conseil fédéral et cet extrait, mis en évidence, expriment la même approche civilisationnelle que celle utilisée par Gustave Adorf, le CICR et plus tard par les membres de la Société des Nations. Les références à la civilisation, en opposition à la barbarie, sont accompagnées par celles au christianisme, que ce soit par la mention systématique de la religion chrétienne des Arméniens, que par l'utilisation d'un vocabulaire religieux, avec par exemple le terme de martyr qui reviendra fréquemment à la tribune de la SDN, ou avec l'exemple que je vous ai cité en introduction. Dans l'appel que le CICR adresse en 1919 au président Wilson, et que Madame Aigli a justement cité, donc non seulement au président Wilson, mais également au peuple américain, afin qu'ils acceptent le projet de mandat américain sur l'Arménie, la crainte, si rien ne se fait, est patente. Donc je traduis directement, l'Arménie n'existera plus, elle sera effacée du concert des nations chrétiennes. C'est la deuxième fois que nous entendons cette phrase aujourd'hui. La sollicitude chrétienne envers les malheureux ne fait qu'accroître le sentiment de responsabilité qui sera du reste fortement exprimé dans le cadre de la Société des Nations, comme nous allons le voir maintenant. Pour Gustave Adorf, cette responsabilité prend même l'accent de la culpabilité lorsqu'il confie à l'une de ses filles, à propos de l'ouverture de la conférence de Lausanne à laquelle il doit participer, on s'apercevra peut-être alors que c'est criminel d'abandonner les populations chrétiennes à des gens qui ne pratiquent le respect des minorités qu'en les supprimant. Avec la proclamation de l'indépendance de l'Arménie le 28 mai 1918 par rapport à la Russie, donc là je parle des Arméniens de l'ex-empire russe, se pose rapidement la question au niveau international de la reconnaissance de ce nouveau pays et de ses frontières. Les deux délégations arméniennes à la conférence de la paix de Paris présentent aux alliés en février 1919 un mémorandum de l'Arménie intégrale demandant entre autres la création d'un État arménien du Caucase à la Cilicie et la protection de l'Arménie par une puissance mandataire, de préférence les États-Unis. Gustave Adorf, alors président de la Confédération, mais en charge du département de l'Intérieur, alors que le département des affaires étrangères est dirigé par le grison Félix Calender, se rend à Paris à plusieurs reprises durant son année de présidence et la suivante. Sans reconnaître officiellement le nouveau pays, la Suisse accepte de recevoir un représentant diplomatique arménien dès mars 1920, ce qui correspond à une reconnaissance de facto. D'autres pays, dont la France et l'Angleterre, ont adopté la même attitude. Bien que la pérennité de la Nouvelle République soit entravée par le refus du Sénat américain d'accepter son mandat, elle est reconnue sur le papier dans le traité de Sèvres, puisque l'indépendance d'une grande Arménie y est proclamée et qu'elle est l'un des signataires. Si bien que la République arménienne est invitée à participer à la première grande conférence organisée dans le giron de la toute nouvelle Société des Nations, la Conférence financière internationale, qui a lieu du 24 septembre au 8 octobre 1920. Cette conférence réunit 180 experts venant de 39 pays, dont l'Arménie. Elle est présidée par Gustave Adorf, ici, dans le fauteuil présidentiel, que nous voyons aussi ici, siéger avec son bureau. Je ne vais pas m'arrêter sur les raisons pour lesquelles Gustave Adorf a été choisi comme président. Cela nous éloignerait de notre sujet d'aujourd'hui. Ou sur les détails de cette conférence qui a comme but de dépasser les antagonismes diplomatiques et de privilégier une réflexion constructive et des solutions concrètes à la crise mondiale, en particulier en matière de gestion de l'inflation et des crédits internationaux. Pour Gustave Adorf, elle s'inscrit même dans un idéal de paix, puisque pour lui, la paix ne pourrait être construite et durer uniquement si les problèmes financiers et économiques sont réglés en commun, de façon multilatérale par toutes les parties prenantes. Mais arrêtons-nous un instant sur les enjeux de la présence des deux délégués arméniens, Rouben Berberian et Mentor Bounassian, qui participent aux travaux de l'ensemble des commissions et surtout peuvent présenter un rapport sur l'état financier de l'Arménie. C'est donc l'occasion pour la communauté internationale et le grand public, d'autant plus que les travaux de la conférence sont largement diffusés dans la presse, d'entendre une présentation de la situation financière de l'Arménie et de ses besoins, qui sont aussi mentionnés dans le rapport britannique par le biais de l'aide que la Grande-Bretagne a fournie aux réfugiés arméniens et assyriens. Se présentant comme un pays agricole et minier, pouvant offrir de nombreuses matières premières aux pays industriels, l'Arménie sollicite une collaboration et non un simple secours des pays industriels, avec la création d'un emprunt extérieur et d'un crédit industriel et commercial de l'Occident. Aucun engagement n'est pris, aucune promesse n'est faite. Mais Gustave Ador, en remerciant l'orateur, souhaite que la République arménienne puisse se constituer sur des bases définitives. Ce soutien public au jeune État laisse augurer la réalisation de la demande qu'elle a déposée au Conseil de la SDN, à savoir d'intégrer l'organisation. Un peu plus d'un mois plus tard, le 15 novembre, s'ouvre à Genève la première Assemblée générale de la SDN. Et nous y retrouvons Gustave Ador, qui est l'un des trois délégués de la Suisse. Avec donc Gustave Ador à gauche, avec Giuseppe Motta au centre et Paul Usteri. Debout, nous voyons Max Hubert, le délégué suppléant. Regardons ici les délégués arrivés à pied à la première assemblée. Le président de la Confédération, Motta, précédé d'un huissier de la Confédération. Derrière lui, Paul Usteri, donc, qui est conseiller aux États, et Gustave Ador, tenant son chapeau. Ils se rendent à la salle de la réformation où ont lieu les séances. Lors de cette première assemblée, un des sujets traités durant toute sa durée est le sauvetage et la protection de l'Arménie. Les discussions se font dans un climat ardent en raison de l'urgence de la situation et des informations parfois contradictoires diffusées dans la presse et provenant des chancelleries de l'invasion des troupes kémalistes en Arménie, de la déroute des troupes arméniennes et de la prise du pouvoir à Erevan par les bolcheviks. Le premier discours de Lord Robert Cecil, artisan du projet britannique de la SDN, ancien ministre britannique et délégué de l'Afrique du Sud, rappelle qu'il n'y a pas de tragédie plus terrible dans l'histoire du monde que l'histoire de l'Arménie. Il peint le martyr enduré par les Arméniens lors du génocide et appelle à la responsabilité de l'Assemblée et du Conseil. Alors que tous les orateurs s'accordent sur la nécessité de protéger et de soutenir l'Arménie, les méthodes et moyens proposés divergent tant entre les différents orateurs les plus en vue, tels Lord Cecil, Lord Balfour, le Français René Viviani, le Belge Henri Lafontaine, etc., qu'ils mettent à jour les différentes interprétations de la SDN, par exemple le rôle des commissions, le recours aux bons offices extérieurs, en l'occurrence ceux du président américain, la réunion d'un corps expéditionnaire des grandes puissances pour protéger l'Arménie. Ces différents ont risqué de tout faire échouer. Ce ne fut finalement pas le cas, ce qui a permis aux rédacteurs du journal de Genève d'écrire « La Société des Nations avait affirmé son existence ». Devant les incertitudes locales, la question de la protection de l'Arménie au niveau politique et sa demande d'admission sont alors renvoyées au Conseil. Gustave Ador ne prend toutefois pas part à ces débats en raison de la répartition des domaines au sein de la délégation suisse. Les questions politiques sont du ressort de Giuseppe Motta, étant président de la Confédération et chef du département politique, c'est-à-dire des affaires étrangères. Tandis que Gustave Ador a intégré les commissions relatives aux questions économiques et financières, techniques et humanitaires. Motter s'exprime ainsi plusieurs fois à la tribune de la SDN en faveur de l'Arménie, comme nous l'avons vu précédemment. Mais durant les discussions à Berne entre les membres de la délégation et le Conseil fédéral, on peut constater que Gustave Ador défend le rôle potentiel d'intermédiaire de la Suisse en faveur de l'Arménie, pour autant que d'autres pays neutres agissent de concert. Ces débats de 1920 ont marqué les annales de l'Assemblée et jouent un rôle sur le transfert du travail de la SDN à propos de la question arménienne à ses enjeux humanitaires, d'autant plus que le nouveau régime soviétique en Arménie conduit la demande d'accession à la SDN du régime précédent dans une impasse, tandis que la question d'un foyer national pour tous les Arméniens du Proche-Orient à la place d'une patrie s'impose à l'assistance de l'Assemblée. Pour Gustav Ador, qui sera nommé président d'honneur de la seconde assemblée de la SDN, la question des réfugiés arméniens s'inscrit dès lors à deux niveaux. Le premier très pragmatique, le second plus stratégique. Tout d'abord, elle fait partie de l'urgence humanitaire à laquelle il est confronté en tant que président du CICR et membre de la commission des organisations techniques de la SDN, puis à partir de sa création en 1921, de la commission des questions humanitaires, la fameuse commission numéro 5. La création d'une commission spécifique démontre évidemment l'expansion des besoins. Donc nous ne voyons pas Gustav Ador sur cette photo. Cette urgence humanitaire concerne l'ensemble des réfugiés de la paix et des réfugiés des nouveaux conflits post-Première Guerre mondiale, en particulier provenant des territoires des ex-empires russes et ottomans, transitant par Constantinople et la Grèce. L'urgence fluctue évidemment en fonction de l'évolution des conflits et des famines. Les actions sont à ce niveau très pragmatiques et s'inscrivent dans tout le tissu d'organisations humanitaires et missionnaires œuvrant déjà sur place. Pour le Proche-Orient, on peut penser à la Croix-Rouge américaine, au Near East Relief, qui est un collectif d'associations philanthropiques et d'organisations missionnaires américaines, à Save the Children, aux nombreuses organisations arménophiles, Quakers, missionnaires et humanitaires spécifiques et d'origines diverses, mais aussi en particulier pour la Transcaucasie, au programme d'aide alimentaire américaine, comme l'American Relief Administration, dirigé par Herbert Hoover. Cette administration est particulièrement active en Russie, où l'on trouve aussi le fameux explorateur et diplomate norvégien Fridtjof Nansen. Le second niveau, pour Gustav Ador, donc le niveau stratégique, se situe dans la recomposition du champ humanitaire. À la fin de la Grande Guerre, sur fond de rivalité entre le CICR et la nouvelle Ligue des sociétés de la Croix-Rouge, fondée en 1919 autour de la Croix-Rouge américaine par des sociétés nationales de pays alliés. Gustav Ador a vite compris que s'il veut maintenir l'institution qu'il préside, il doit autant collaborer avec la nouvelle Ligue que défendre sans concession ce qu'il considère comme l'essence même du CICR, à savoir son principe d'universalité. Valeur qu'il retrouve évidemment à la Société des Nations, même si l'universalité y est en devenir. Dans ce contexte, Gustav Ador joue un rôle de pivot. Le CICR collabore avec la SDN sur plusieurs programmes, tels que le rapatriement des prisonniers de guerre, la lutte contre les épidémies et le secours aux réfugiés de l'ex-empire russe et de l'ex-empire ottoman. En corollaire, l'organisation présidée par Ador s'assure que cette politique internationale adopte les valeurs du CICR de neutralité et d'universalité. La création du poste de haut commissariat pour les réfugiés auprès de la SDN illustre ces enjeux. En effet, c'est le président du CICR qui a pris l'initiative d'attirer l'attention de la SDN sur la nécessité d'une prise en charge intergouvernementale du problème en convoquant en février 1921 une réunion avec les représentants du BIT, de diverses organisations privées d'assistance aux réfugiés et de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge qui aboutit à la nomination de Fridtjof Nansen comme haut-commissaire pour les réfugiés sous l'égide de la SDN. Prévu tout d'abord pour l'action humanitaire en Russie, le Haut-Commissariat étend l'année suivante, en 1922, ses compétences aux réfugiés du Proche-Orient, puis, après le traité de Lausanne qui alourdit considérablement le nombre d'apatrides, étend son certificat d'identité, mieux connu sous le nom de passeport Nansen, aux réfugiés arméniens, à partir de juin 1924. Dans le cadre de la Société des Nations, nous avons vu que l'impasse politique de 1920 et l'urgence humanitaire, aggravée par les conflits en cours, conduisent les délégués à se concentrer sur l'aspect humanitaire. Ainsi, plusieurs programmes en faveur des réfugiés arméniens débutent sous l'égide de la Société des Nations, tels que la recherche et restitution de femmes et d'enfants enlevés par les Turcs et déportés, mission confiée à la Danoise Karen Jepp, ou encore le sauvetage des réfugiés chrétiens après l'incendie de Smyrne en 1922, ou encore après le traité de Lausanne qui entraîne de vastes déplacements de population, les projets de Karen Jepp dans l'établissement d'une colonie agricole arménienne en Syrie, ou un autre projet, celui du haut-commissaire Nansen, dans l'établissement de réfugiés arméniens de l'ex-Empire ottoman en Transcaucasie. Je ne vais pas développer tous ces projets menés directement par la SDN et sous son égide, et je vous reporte, pour ceux qui aimeraient approfondir ce sujet, aux excellentes publications de l'historienne Zonivar Kevonian. Je ne vais pas non plus développer toute l'action menée par Gustave Adorf pour les réfugiés en général dans le cadre de la SDN. Mais arrêtons-nous un instant sur la troisième assemblée de la Société des Nations, qui reste dans ses annales comme le second moment paroxystique de ces débats à propos de l'assistance en faveur des Arméniens. Cette assemblée se réunit à Genève dès le 4 septembre 1923. Rapidement, l'incendie de Smyrne, entre le 13 et le 22 septembre, et l'annonce de l'exode des populations grecques et arméniennes de l'Anatolie provoquent une vive inquiétude. Si bien que la proposition de Fridtjof Nansen de charger le Haut Commissariat des réfugiés de gérer les fonds recueillis pour venir en aide aux nouveaux réfugiés est rapidement adoptée par l'Assemblée. Quelques jours plus tard, alors que la question semble réglée, une intervention ajoutée à la dernière minute de Lord Balfour provoque un véritable coup de théâtre. Il annonce que son gouvernement est prêt à donner immédiatement 50 000 livres sterling pour aider les réfugiés arméniens et grecs contraints de s'enfuir de Smyrne. Pour autant, certes, que d'autres gouvernements soient prêts à donner collectivement une somme similaire. En précisant que son don est nullement politique, mais uniquement humanitaire, Lord Balfour inaugure le concept d'humanitaire d'État. Celui-ci est immédiatement salué par Gustave Adorf, qui prend la parole juste après Lord Balfour. En s'exprimant en tant que président du CICR, et non comme délégué de la Suisse, Gustave Adorf annonce que deux délégués de la Croix-Rouge viennent de partir pour Constantinople, Smyrne et Brousse. S'en suivent plusieurs interventions enthousiastes d'autres délégués. Mais les dons étatiques peineront à venir. À la mi-novembre, seuls 9 États, dont la Suisse ne fait pas partie, ont répondu à l'appel. Ces deux interventions, comme l'attitude du Conseil pour qui la désaffection du politique dans la question arménienne est actée, en particulier après le traité de Lausanne, démontrent le repli sur des actions purement humanitaires et sur des aspects de droit international, comme l'attribution du passeport Nansen aux Arméniens. Le corollaire de ce nouvel humanitaire d'État est donc l'apparition d'une diplomatie humanitaire, mise en place d'une manière très empirique par la Société des Nations, le CICR, qui est parfois la première organisation à reconnaître de facto un nouvel État, comme pour le gouvernement soviétique, et le Haut-Commissariat des réfugiés. Toutefois, la politique n'est pas bien loin, comme le démontre le différend, qui apparaît à la tribune de cette même assemblée entre Gustave Adorf et Fridtjof Nansen, malgré les hommages respectifs à leur travail. Le premier reproche aux délégués norvégiens et aux commissaires de privilégier à des fins politiques le retour des réfugiés russes dans leur patrie d'origine, voire de les contraindre. Après quelques éclaircissements et l'assurance que ces retours sont tous volontaires, l'affaire est close. D'autant plus que Gustave Adorf préfère mettre en terme à cette sorte de duel. Quelques années plus tard, alors que Gustave Adorf aura quitté l'Assemblée, une controverse similaire réapparaîtra à propos du projet de Fridtjof Nansen, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, d'établir une colonie de réfugiés arméniens en République, donc de l'ex-Empire ottoman, en République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie. Comme je l'ai dit et cité en introduction, le principal discours que Gustave Adorf a prononcé en faveur des Arméniens, en dehors des interventions très concrètes relatives au travail mené par les réfugiés en Russie et au Proche-Orient et contre les épidémies, a lieu lors de la 5e Assemblée en 1924. Il n'attend pas la discussion prévue sur les travaux de la 5e commission à propos de l'assistance portée aux réfugiés arméniens, du projet de Fridtjof Nansen de rapatrier un certain nombre de réfugiés arméniens en Transcaucasie ou de solliciter l'aide du BIT pour les intégrer dans les pays d'accueil. Il préfère s'exprimer dès l'ouverture de l'Assemblée. Dans la suite du discours que j'ai cité au début de mon exposé, Gustav Ador présente ses doutes face au projet de concentration du peuple arménien aux environs d'Erevan, craignant les influences politiques qui pourraient agir très fortement sur la jeunesse. Il est évident que sa lutte politique contre le bolchevisme motive ses doutes, et également son interrogation sur les chances et les envies de retour des réfugiés qui se trouvent déjà en Suisse. C'est la raison par laquelle il salue la contribution de la Suisse pour l'instruction et l'éducation des jeunes réfugiés arméniens qui pourront choisir leur avenir, ainsi que celle des œuvres philarméniennes suisses qui ont financé le sauvetage des orphelins de Sivas et l'orphelinat établi à Beuniens. Même si son discours témoigne d'une certaine désillusion face à la situation politique, son pragmatisme en matière d'optimisation de l'assistance entre bienfaisance privée et organisations internationales et son idéal de responsabilité donnée à celle-ci reprennent le dessus dans sa péroraison. Ce que fait la charité privée à cet égard ne suffit vraiment pas. Aussi, je crois qu'il est du devoir et de l'honneur de la Société des Nations de ne pas perdre de vue qu'elle s'est véritablement engagée à donner une solution définitive à la question si angoissante de la patrie, du foyer du peuple arménien. Gustav Ador, malade, ne sera toutefois pas présent à la séance de cette même assemblée une vingtaine de jours plus tard, lors des discussions et du vote des résolutions sur l'assistance aux réfugiés arméniens, l'augmentation de l'allocation versée au Haut-Commissariat, qui est mandaté avec le BIT d'entreprendre une large enquête, ainsi que des remerciements votés au gouvernement et peuple grec et à Fridtjof Nansen pour leur sollicitude et action, actant l'impossibilité pour la Société des Nations d'agir dans le domaine politique. En conclusion, nous pouvons affirmer que même si Gustav Ador n'a pas souvent pris la parole en faveur de l'Arménie à la tribune de l'Assemblée de la Société des Nations, il a joué en matière de protection des réfugiés arméniens en rôle de pivot entre sa délégation et la Confédération, entre le CICR, la SDN, le Haut Commissariat pour les réfugiés et les autres organisations travaillant sur le terrain. Mais les liens entre le CICR et la SDN ne se limitent pas à Gustav Ador. En plus des délégués sur le terrain parfois communs, on peut citer Max Huber et Giuseppe Motta qui l'intégreront en 1923. Le travail en faveur des réfugiés arméniens a été constant dans les commissions numéro 2 et numéro 5 de la SDN, où siégeait non seulement Gustav Ador, mais aussi Fridtjof Nansen. Il continuera du reste bien après le retrait de Gustav Ador, avec plus ou moins de succès selon les projets et missions. Le rôle joué par Gustav Ador est emblématique de la recomposition du champ humanitaire qui s'est opérée dans l'après-Première Guerre mondiale et du développement d'une diplomatie humanitaire dans le cadre d'un fort empirisme en raison de l'urgence des situations locales et des facteurs multiples. Mais ce rôle ne témoigne pas de toute son activité menée dans le cadre de la SDN, en particulier les travaux financiers et économiques. Gustav Ador s'est par exemple beaucoup investi dans la reconstitution financière de l'Autriche. En fin de compte, les prises de parole de Gustav Ador en faveur des réfugiés arméniens témoignent aussi des valeurs politiques qu'il défend et de son idéal qu'il place dans l'efficacité et la responsabilité des organisations internationales, humanitaires et étatiques et de leur nécessaire collaboration avec les institutions privées. Dans ce fameux discours du 8 septembre 1924, les phrases qu'il prononce à propos de l'arbitrage international avant de parler des Arméniens résume parfaitement son idéal de paix et son optimisme. Il faut avoir foi dans un avenir meilleur. Il faut avoir foi dans une humanité assagie par la terrible leçon de l'expérience passée et dans une humanité meilleure orientée vers les préceptes de la morale chrétienne. Je vous remercie.